Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Lattès pour parler du dernier roi des Juifs. Jean-Claude Lattès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditeur, enfin fondateur des éditions qui portent votre nom. Vous avez été journaliste littéraire, vous avez écrit deux romans, Le Seul Amant et Marguerite et les Enragés aux éditions du Seuil. Et puis, comme vous êtes passionné par l'Antiquité, vous venez de publier ce livre, Le Dernier Roi des Juifs, aux éditions Nil. Alors, expliquez-nous, qui est ce dernier roi des Juifs? On va en parler tout au long de l'émission, mais déjà, son nom, comment est-ce qu'il s'appelle?
Il s'appelle Marcus Julius Agrippa. Alors, il est très peu connu. Et bon, il y a deux points de repère dans sa famille que le grand public connaît. C'est son grand-père, c'est Hérode,
grand Hérode. Hérode le Grand.
Hérode le Grand. Et sa fille, Bérénice, la Bérénice de Racine et de Corneille. Donc, il a vécu au 1er siècle. Il est né en moins 10. Il est mort en 44. Il a une particularité. Il a pas mal de particularités. La première, c'est qu'il est juif, mais il a du sang arabe. Il est né à Jérusalem, mais il va vivre les 30 premières années de sa vie à Rome, car il a la citoyenneté romaine. Il est un exemple vivant de ce que le premier siècle, la complexité du premier siècle, une complexité qui, je crois, nous a façonné. C'est-à-dire, il y a les trois éléments qui nous façonnent. Il y a la foi monothéiste. Mais Agrippa, dans son temps, il a une foi juive, il est monothéiste, mais pendant sa vie, c'est la vie du Christ. Et donc, je dirais, nous avons les mêmes croyances, juifs, chrétiens. Il a été élevé à Rome, et à Rome, et même en Orient, c'est la civilisation hellénistique, dont toute notre intelligence, tout notre raisonnement est né de la philosophie grecque. Notre façon de penser est modelée, donc la foi d'abord, ensuite le raisonnement. Et enfin, troisièmement, il est à Rome. Et au moment où l'Empire se fonde, il est l'ami d'Auguste. Et cette forme d'Empire, au fond, n'a jamais... Nous sommes dominés toujours politiquement par cette conception centralisée du pouvoir.
Voilà, avec le droit romain qui a marqué toute l'histoire de l'Occident.
Si vous voulez, tous les empires qui ont existé jusqu'à aujourd'hui se sont modelés sur l'Empire romain. Rome crée les administrations centralisées, le modèle de l'État romain se répète. Donc sur le plan, encore une fois, la foi, l'intelligence et le social ou le politique, ce premier siècle nous forme.
Tout à fait.
Et nous a formatés.
Je partage complètement cette conviction, c'est pour ça que j'ai été très heureux de vous inviter, parce que votre livre permet effectivement, à travers la figure d'un personnage très méconnu, finalement, mais qui a une vie passionnante, de nous rappeler qu'on est fondé sur ce trépied, hein, Athènes, Rome, Jérusalem, et Athènes qu'il a un peu connu à Alexandrie aussi, c'est-à-dire qu'au fond, la philosophie grecque, il l'a découvert en partie par son passage aussi à Alexandrie.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, la philosophie Alexandrie, au 1er siècle, c'est la capitale intellectuelle de l'hellénisme.
Tout à fait.
Athènes est morte. Il ne reste plus grand-chose. Tandis qu'à Alexandrie, il y a le musée, il y a les savants. Enfin, c'est l'intelligence, si vous voulez, grecque, se développe à partir d'Alexandrie. Les grands maîtres sont alexandrins. Et donc, et lui-même, dans tout l'Empire, la culture est hellénistique. Donc, et bien entendu, tout le monde parle le grec. Le latin, c'est pour les ploucs. C'est pour le pape.
Mais oui, tous les intellectuels parlent le grec.
Tous les intellectuels, mais tous les hommes politiques, tous les commerçants, enfin, tout, si vous voulez, entre guillemets, l'élite, on communique en grec dans tout l'Empire, et non pas en latin. Donc, évidemment, il a une culture grecque. Et il aime Homère, par-dessus tout. Il a deux livres, si vous voulez, qui l'ont formé, qu'il adore, qu'il aime, qu'il connaît par cœur, bien entendu, parce qu'à l'époque, on connaît par cœur ces textes. C'est Homère et c'est la Bible. Et il vit entre les deux cultures, mais il le vit très bien, puisqu'il a une culture, comme Philon d'Alexandrie, ce sont des hommes qui vivent dans un univers intellectuel différent de celui de la Palestine, qui est uniquement un pays de foi, où on soit la loi juive. Tous les autres juifs vivent leur foi juive au milieu d'une autre culture. Et à l'époque, personne n'y trouve à redire.
C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a aussi intéressé, parce que comme il est contemporain de Jésus, vous l'avez dit, à travers les évangiles, on a une vision très différente, évidemment, parce que là, on est vraiment dans la foi juive, le monde grec est absent quasiment des évangiles. Il est plus présent chez Jean un petit peu, mais chez les trois synoptiques, on ne voit pas du tout ce monde de la culture hellénistique, et on est vraiment sur une problématique...
C'est Paul, hein.
Alors, chez Paul, on le trouve, c'est mais Paul je parle qui... des évangiles. Hein.
Oui, oui. Non, mais sûr, je vous avais dit, mais c'est à partir de Paul qu'on
retrouve cette confrontation avec...
Et même la fusion, ouais. De cette manière, de la philosophie du monde hellénistique et païen et du christianisme.
Ouais. Et d'ailleurs, il est parfaitement contemporain de Paul, qui a dû naître en 10 aussi, je crois, à peu près...
Oui, il est... Je n'ai pas évoqué le Christ du tout dans mon livre. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, on ne peut pas évoquer le Christ en trois lignes ou en 10 lignes. Et deuxièmement, quand le Christ vit, Agrippa est à Rome. Et puis,
ils ne se sont pas connus du tout. Donc
ils ne se sont jamais rencontrés. Et puis, il n'y avait aucune raison qu'ils se rencontrent. Un homme né du peuple, en Galilée, qui oui, vit en Galilée, oui. Un roi.
Il y a un autre roi...
Non, il aurait rencontré Hérode Antipas.
Hérode Antipas, voilà, c'est ça.
Il aurait rencontré Hérode Antipas. Écoutez, ça, c'est tout à fait possible. Tout est possible. Mais disons que ce n'est... J'ai essayé quand même, si vous voulez, en ce qui me concerne, dans ce livre, j'essaie d'être le plus près de l'histoire possible, du vraisemblable possible. Je prends un exemple. Dans les évangiles, on parle du massacre des innocents d'Hérode. C'est évidemment une pure invention. Vous pensez bien que s'il y avait eu ce massacre des premiers-nés en Israël, en Judée, ça aurait été la révolution. Et Flavius Josèphe, dont on va beaucoup parler,
bien sûr.
Flavius Josèphe qui suit Hérode pas à pas et qui le déteste, qui est très sévère à son égard, c'est le moins qu'on puisse dire, rappelle chacun de ses crimes. S'il y avait eu ça,
il l'aurait mentionné.
Donc, j'essaye, si vous voulez, j'ai essayé quand même aussi de coller le plus possible à l'histoire telle que nous pensant qu'elle s'est passée, telle que nos sources nous permettent de l'imaginer, et de ne pas trop tomber dans tous les légendaires juifs, chrétiens, ou même païens qui existent, parce que là,
donc
on
avance sur... Donc votre source principale, c'est Flavius Josèphe.
Écoutez, les deux sources principales, bien entendu, c'est Flavius Josèphe et Philon d'Alexandrie, qui, Flavius Josèphe ne l'a pas connu, mais a été très ami de son fils, et puis c'était une mémoire très courte, il l'a rencontré, il l'a vu, mais il avait 7 ans, donc je veux dire, vous ne pouvez pas avoir une vraie discussion avec le roi, je pense, mais il a été très ami avec son fils, donc il a donné des informations, on voit qu'il y a des informations personnelles qui passent, qui ne sont pas des informations publiques, donc qu'il donne, et puis Philon d'Alexandrie, donc qui était le grand philosophe qui vivait à Alexandrie, et qui a rencontré Agrippa, et qui a fait une mission avec Agrippa, auprès de Caligula, à Rome. Et d'ailleurs, un des rares portraits, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux hommes qui ont rencontré Caligula de son vivant, qui en ont fait le portrait, qui ont été des témoins. C'est Sénèque et Philon d'Alexandrie.
Alors, c'est aussi intéressant de parler de ces personnages, parce qu'ils ne sont pas forcément très connus de tous nos auditeurs. On va venir plus longuement sur la vie d'Agrippa, bien sûr. Dites-nous un mot de Flavius Josèphe, qui est un historien donc, de l'Antiquité extraordinaire, qui a écrit des livres très précis. Racontez-nous un tout petit peu son histoire et qui il est, pour ceux qui ne le connaissent pas.
Ben écoutez, Flavius Josèphe est un immense historien. Et qui nous est très précieux, parce que c'est le seul historien d'un pays conquis. Nous n'avons pas de mémoire des provinces romaines, des pays comme il n'y a aucun Gaulois, il n'y a aucun Ibère, il n'y a aucun Grec même, qui n'a écrit, qui n'a vécu la conquête romaine, et qui a vécu la présence de Rome. Donc déjà, Flavius Josèphe nous apporte un témoignage capital sur comment les hommes vivaient l'occupation romaine. Et pour la mémoire juive, il est absolument capital, car si il n'avait pas été là, nous ne connaîtrions rien de la vie de la Palestine, des Maccabées, à la chute.
Donc les Maccabées, c'est 2e siècle avant Jésus-Christ, chute du Jérusalem, 70
après Jésus-Christ. Donc sur ces 3 siècles-là, il n'y a aucune autre source que lui. Donc tout ce que nous savons est...
Alors lui, c'est un juif qui vit, qui devient
citoyen romain. C'est un juif qui était fils de prêtre. Donc rappelez-vous qu'à l'époque, donc nous sommes à l'époque du temple, donc il y a encore des prêtres. C'est pas des rabbins, hein, ce sont des prêtres. Il est brillant, c'est un très intelligent, et il part à Rome un jour pour défendre deux Judéens. Avec un entregent formidable, il arrive à les faire libérer, notamment à travers la relation qu'il a avec Poppée, la femme de Néron. Et puis, c'est le soulèvement en Judée, donc là, mon roi Agrippa est mort, c'est le soulèvement en Judée, et il est choisi pour défendre la Galilée contre Vespasien. Bien entendu, il se fait écraser. Je suis allé sur le lieu de la bataille, c'est le fortin, ça a l'air d'un petit fortin d'émission de télévision bon marché, donc on voit l'armée romaine et on voit ce petit fortin, on imagine bien ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, il a compris, d'ailleurs il était contre la guerre, il explique, il essaye de se battre auprès des Juifs pour leur dire « la guerre est perdue, on ne peut pas se battre contre Rome ». Et puis il rentre, il a la vie sauve parce qu'il prévoit à Vespasien l'Empire. Il
dit « vous serez empereur ».
C'était une manière quand même de le séduire. Et donc il va être dans le camp romain, à côté de Titus, à côté de Bérénice, et il va essayer de négocier sans cesse la réduction de Jérusalem en disant à ses coreligionnaires, écoutez, c'est perdu,
etc. Ouais. Et tout.
Bien entendu, il n'y réussit pas, il devient un historien officiel du judaïsme, financé, si je puis dire, il vit à la cour des empereurs romains, de Vespasien, de Titus, et ensuite Domitien. Alors il a une réputation assez mauvaise, n'est-ce pas, en histoire, parce que si vous voulez, on le considère comme un collabo. Bon, j'essaye d'expliquer dans ce livre, de défendre Agrippa, qui avait les mêmes positions que lui, en disant, si vous voulez, que les bonnes guerres, ça se gagne, et qu'entraîner son peuple dans une guerre...
Suicidaire, d'ailleurs, il y a eu des centaines de milliers de morts.
Il y a eu 1 million de morts, n'est-ce pas ? Il y a eu 1 million de morts, il y a eu le temple brûlé et rasé, Jérusalem détruite, les Juifs... en diaspora pour toujours. Le successeur d'Agrippa s'appelle David Ben-Gourion et il est en 1947. Donc, il s'est passé quand même 1900 ans, si vous voulez, entre, si je puis dire, le roi et le président. Donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui a changé à jamais le judaïsme. Je pense que c'est aussi un des événements qui a fait que le christianisme s'est développé si bien, si vite. Je ne sais pas, on ne peut pas refaire le monde. Mais jusqu'à la destruction du temple, le prosélytisme juif gagne des milliers et des milliers et des milliers d'adeptes chaque année. Il y a 5 millions de juifs dans le monde. On pense, si vous voulez, en gros, que sur ces 5 millions de juifs, en un siècle et demi, 2 millions et demi de convertis dans un monde qui comprend 50 millions de personnes. Donc, là, si vous voulez, la chute... du mur, plus, si vous voulez, ce qu'apportent, bien entendu, les chrétiens, le message du Christ, fait que, bon, à tout jamais, l'image du judaïsme est ternie par la chute du temple. Comment leur maison de Dieu est morte, ça veut dire que leur Dieu, c'est pas grand-chose. Et qu'on se tourne vers autre chose, et finalement, ce sont les chrétiens qui l'emportent, grâce, si je puis dire, si vite, à la chute du temple. Alléluia, Alléluia.
Alléluia.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie de Jean-Claude Lattès. Nous parlons de son livre « Le dernier roi des Juifs » publié chez Nil. Et vous avez choisi cette première musique, Jean-Claude Lattès, un Alléluia, psaume 150 chanté par un chœur.
Oui, je l'ai choisi pour deux raisons. D'abord que c'est un très beau chant. La seconde chose, c'est qu'on entend déjà, si vous voulez, dans les influences, le grégorien qui arrive, n'est-ce pas ? Et puis, troisième chose, c'était, si vous voulez, ce que nous parlions tout à l'heure, ce que nous disions tout à l'heure sur l'histoire. Alors, par exemple, l'iconographie juive n'existe pas, comme vous le savez. Nous n'avons aucune iconographie de l'époque. Tout est interdit. Les reproductions d'images, d'hommes, d'animaux, etc. En revanche, donc, on savait que les Juifs chantaient, comme tous les autres peuples. Le chant est quelque chose de primordial. Alors, comment ils chantaient ? Et deuxième question, avec quoi ils chantaient ? Alors, le psaume 150, il a cet avantage extraordinaire, c'est qu'il nous décrit l'orchestre juif. Je vous le dis, c'est donc louanger le Seigneur. Louangez-le à l'éclat du sophar. Le sophar, c'est la corne du bélier. Louangez-le à la harpe. Louangez-le à la lyre. Louangez-le au tambour, à la danse. Louangez-le au sitar, au pipeau. Louangez-le au sistre sonore, louangez-le à l'ovation des sistres. Bon, nous avons là, si vous voulez, grâce au psaume 150, ce qu'était un orchestre au temps du temple.
Donc cette musique que vous avez entendue a reproduit avec ces instruments-là et des chants.
A reproduit ce qui sans doute se chantait au temple. Bien entendu, à Jérusalem, ou peut-être même les psaumes, c'était dit aussi dans les synagogues. Donc, si vous voulez, c'est un des plus célèbres psaumes, un des plus entraînants. Donc, on imagine bien qu'il a été chanté comme ça.
Lélie Envar, bonjour.
Bonjour. Alors, justement, comme vous parlez des psaumes, je voudrais qu'on revienne sur cette appellation « le dernier roi des Juifs » et que vous nous expliquiez comment, finalement, les psaumes, évidemment, sont les psaumes de David.
Oui.
Donc, et David est une figure à la fois de grand roi. On dit « Oh, David, grand roi », bien sûr. C'est à la fois, évidemment, un poète et un musicien et un grand spirituel et un prophète. Donc, le rapport au pouvoir chez les Juifs dans ce premier siècle, comment il s'articule avec la religion, avec ces figures biblique du passé, et aussi de l'autre côté, on en a parlé rapidement, avec cette idée que Jésus, par exemple, se présentait comme le roi des Juifs. Voilà. C'est-à-dire, évidemment pas, il ne s'agissait pas d'être roi au même titre qu'Agrippa était roi. Donc comment s'articule en fait la question politique avec la question spirituelle, religieuse, donc dans ce premier siècle, au temps d'Agrippa, et comment lui, il le vit ?
Alors, c'est très compliqué. D'abord, si vous voulez, une question de vocabulaire. Le roi, c'est Dieu. Une des appellations de Dieu les plus fréquentes, c'est notre roi. Donc, chez les Juifs, bien entendu, ensuite, ce roi, ce Dieu, oint un certain nombre de ses sujets et désigne donc, pour les images sont toujours les mêmes, pour diriger le troupeau, le berger.
En son nom.
En son nom, le roi. Donc, il choisit David. Bon. Alors, les Juifs, au premier siècle, sont très divisés sur ce sujet, comme ils le seront toujours, à savoir, qui nous sommes-nous ? Sommes-nous une religion ? Sommes-nous un peuple ? Sommes-nous une nation ? Alors, les Juifs très traditionnels considèrent, si vous voulez, qu'un roi est nécessaire. Ce sont les Sadducéens. Quand il y a trois sectes chez les Juifs, les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Alors, les Sadducéens veulent que la loi de la Torah soit appliquée, point à la ligne. Il y a un roi qui est là, en plus du grand prêtre pour les faire appliquer, voilà à quoi il sert, et il mène la nation, et il met de l'ordre dans l'État. Pharisiens, c'est plus compliqué. Pharisiens sont divisés. Pharisiens, il n'y a pas d'autre pouvoir qu'un pouvoir divin. Il y a une réincarnation, alors que, si vous voulez,
une résurrection des morts. Oui.
Des morts. Il y a les raisonnables qui disent que le roi, il faut un roi parce qu'il faut de l'ordre. Et puis d'autres qui disent que c'est une L'imposture, que c'est un imposteur.
Et d'ailleurs, il s'appuie cela sur des textes du premier livre des rois où le prophète Samuel dit « Mais vous n'avez pas besoin d'un roi, vous avez Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui... » Et c'est par un petit peu... Dieu finit par dire, dans le livre des rois, là, finit par dire « Bon, moi, je concède que vous ayez un roi parce que vous voulez ressembler à tous les autres peuples. » Mais au fond, c'est une sorte de concession qui est faite à la demande du peuple.
Vous savez, le drame de cette interprétation-là de la Torah et de la Bible, c'est ce qu'ont vécu les Juifs pendant des siècles. Parce qu'ils ne pouvaient pas admettre une fidélité aux empereurs romains. Oui, ils leur obéissaient, mais ils ne considéraient jamais l'empereur comme désigné par Dieu, bien entendu, puisqu'il était païen. Et ensuite, ça a été la même chose dans le christianisme. Ils ne pouvaient pas reconnaître la part divine du roi d'Espagne et du roi de France. C'était impossible. Le roi était un chef d'État, mais il ne pouvait pas en aucun cas être d'essence divine. Surtout qu'il n'était pas le même Dieu qu'eux. Donc voilà. Donc finalement, le seul régime dans lequel les Juifs se sont toujours sentis bien, c'est la République.
Parce donc là, rendre à César ce qui appartient à César.
Et c'est rendre à César ce qui appartient à César, c'est que ce que dit le Christ était absolument juste, c'est-à-dire bon, il n'y a rien de divin là-dedans, et ce que dit le Christ directement, c'est paye-leur l'impôt et pour le reste, vis ta vie religieuse.
Et Agrippa lui-même, est-ce qu'il considérait que c'était une fonction aussi divine qui lui était...
Non. Il est très clair. Agrippa a écrit là-dessus. Vous savez, il y a un incident terrible qui se passe, qui, grâce à lui, ne dégénéra pas. Caligula, qui était quand même un peu fou et dérangé, voulait sans cesse, si vous voulez, le considérer comme un dieu. Et aussi bien un dieu. Et non seulement ça, mais il détruisait les statues de Zeus, ou même de Diane, tous les lieux, et il est coiffé de sa tête. Il y avait le corps, qui était un symbole, toujours, n'est-ce pas? Et il est coiffé de sa tête. Et il a voulu faire ériger sa statue dans le temple à Jérusalem. Ça a été pour les Juifs, c'était la nouvelle abomination de la désolation, n'est-ce pas? C'était la seconde, c'était quelque chose, c'était terrible pour eux. Et donc, Agrippa est allé plaider avec Philon auprès de Caligula, qui était son ami, pour lui dire c'est pas possible. Et il lui écrit. Il lui dit, pardonne-moi, chez nous, il n'y a rien à faire. Dieu est au-dessus de nous tous. En aucun cas, nous ne pouvons le représenter. Dieu est maître de l'univers. Nous ne sommes là qu'à titre temporaire. Donc, il lui dit quelque chose qui est
ils ont
très
été
courageux.
Parce que si ils auraient pu être massacrés, oui.
Ah, mais il a été un doigt de la mort. Et c'était un courage absolument fou de dire une chose pareille, parce que Caligula, ses adversaires, faisaient pas des vieux os, n'est-ce pas? Et si on lui disait à peine un petit oui, hop, on périssait dans la semaine. Donc c'est un courage fou, mais là, il s'exprime très clairement. Le roi juif qu'il a été ne s'est jamais considéré, il s'est considéré comme un roi temporel, mais jamais d'essence divine. Et bien entendu, il considère même que le grand prêtre a plus d'autorité que lui. Il le dit plusieurs fois. Le grand prêtre, lui, rencontre Dieu une fois par an, au jour de Kippour, quand il rentre dans le Saint des Saints. Donc, le roi n'a pas le droit. Le roi n'a pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Donc, le grand prêtre a un statut et Agrippa le reconnaît, qui est plus important que le sien. Donc, un roi berger, mais un roi humain, mortel. Pas le roi, parce qu'il sera, par exemple, encore une fois, le roi d'Espagne ou le roi de France.
Et dites-nous un mot de ce qu'est dans le judaïsme, la notion du roi Messie.
Vous savez...
Fils de David.
Les prophètes ont dit que viendrait un jour... Enfin, ils ont tout dit leur contraire. Donc c'est très difficile. Vous connaissez au moins aussi bien la Bible que moi, cher Frédéric. Vous savez bien que la Bible dit sur ces sujets tout et son contraire.
Tous les livres religieux,
voilà, tous les livres religieux
disent tout leur contraire.
Donc, un jour viendra un Messie, donc, qui sera roi par essence, parce qu'encore une fois, Dieu et le roi. Hein, c'est le vocabulaire. Là, nous sommes dans la confusion de Dieu et du roi. Le roi, il est le roi de l'univers. Voilà. Et donc, un jour viendra un Dieu, enverra sur terre un Messie qui sera roi. Roi, bien entendu, des Juifs, puisque si vous voulez, il est le Dieu des Juifs. Et voilà. Donc,
mais qui fera d'Israël une lumière pour les nations. C'est un peu cette idée qu'il y a chez certains prophètes, notamment Isaïe, que le Messie va peut-être étendre.
Si vous voulez, le peuple juif, à l'époque, déjà, pendant Philon d'Alexandrie, écrit là-dessus. C'est très intéressant de voir comment un homme du 1er siècle analyse la Torah, un homme de la diaspora. Il dit que le peuple juif est un peuple berger. Et que s'il suit la Torah, il arrivera à un tel degré d'harmonie que le monde entier le suivra. Voilà. Et donc, voilà l'interprétation. Hein. Mais encore faut-il que le peuple juif soit admirable.
Oui, c'est un fardeau pesant d'être le peuple élu.
Et les prophètes le disent sans cesse, il ne l'est pas admirable. Parce que, évidemment, comment une collectivité pourrait-elle être admirable dans son ensemble, n'est-ce pas ? Voilà. C'est un des nœuds, des drames, et l'interprétation des Esséniens, c'est que seul, si vous voulez, par la volonté divine, grâce à l'eschatologie, un jour, les méchants seront plus là. Il parle plus spécifiquement des méchants juifs que des méchants païens.
Alors reprenons un petit peu la question qu'on a abordée au début du lien entre judaïsme et hellénisme, puisque ce roi Agrippa, donc qui est le petit-fils d'Hérode, a été baigné dans cette double culture et il a été très proche, vous nous le disiez, de Philon d'Alexandrie, qui est un des plus grands penseurs de l'Antiquité, qui a introduit la philosophie grecque et qui a fait un mariage en tout cas de la philosophie grecque et du judaïsme en introduisant des notions comme le logos, etc., pour interpréter aussi la foi juive. Finalement, est-ce que Agrippa lui-même était philosophe ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pensé, qui était dans une école philosophique conceptuelle, ou c'est juste quelqu'un qui s'est intéressé comme un honnête homme, on dirait aujourd'hui, à tout ce monde des idées ?
Écoutez, il y a deux choses. Je dirais, il y a deux parties dans la vie d'Agrippa. Je vous l'ai dit, il arrive à Rome, il a 4 ans. Il a 6 ans, pardon. Son père a été assassiné par son grand-père.
Donc Hérode le Grand a assassiné son propre fils.
A assassiné son fils, qui était le père d'Agrippa. Donc la mère d'Agrippa a emmené ses enfants, ils étaient 4 frères et sœurs, à Rome, de peur que c'est la fin d'Hérode, n'est-ce pas ? Hérode devient complètement fou, le grand Hérode devient complètement fou, de peur que ses enfants à elle soient aussi assassinés. Elle y passe et les enfants aussi. Que ça tombait comme des mouches dans la famille hérodienne. Et donc, le petit garçon arrive à Rome, et là, il est éduqué par Auguste, dans la maison d'Auguste, avec les petits-enfants, les petits-neveux, et d'autres petits princes. Et là, il est éduqué donc par Auguste, avec les meilleurs maîtres. Et les maîtres, à l'époque, bon, évidemment, vous apprenez à lire et à écrire, mais il y avait aussi de la rhétorique, et il y avait aussi de la philosophie. Et la philosophie, elle était enseignée par des Grecs. Donc, jusqu'à 30 ans, notre Agrippa va vivre à Rome, une vie de débauché, parce que tout le monde était débauché, n'est-ce pas ? Quand on était dans la jeunesse dorée de Rome, c'était dans une époque, si vous voulez, de sexualité beaucoup plus libre que celle d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il était tout à fait normal, de jeter sa gourme, comme on dit. Il l'a fait avec un plaisir...
Sans culpabilité.
Sans culpabilité aucune.
Malgré le fait qu'il était un prince juif. Donc,
si vous voulez, c'était un prince juif.
Qui suivait les mœurs romaines.
En diaspora. Et si vous voulez, les lois, comme vous le savez, sont faites pour le peuple et jamais pour les rois ni pour les princes.
Oui, mais sa foi juive, si elle était forte, aurait pu l'amener à avoir un comportement.
Écoutez, sa foi juive, c'est une foi, je dirais, purement monothéiste. Dieu a créé le monde, Bon, après ça, les lois.
Donc, ils ne suivaient pas la Torah à la lettre,
ah
en
non,
fait.
Ah non, ils ne suivaient certainement pas la Torah à la lettre.
Ils vivaient dans les lois,
romain. Si vous voulez, par exemple, les lois qui déjà ont une importance capitale, qui sont celles de l'alimentation, les tabous alimentaires, la nourriture cachère, bien entendu qu'ils ne les suivaient pas. Ils vivaient chez l'empereur, ils déjeunaient avec ses neveux, il était le meilleur ami de Claude, il était le meilleur ami de Drusus, le fils de Tibère. Tout ça faisait des agapes, des orgies tous les soirs. On pensait bien qu'à table, on ne servait pas. Il n'y avait pas un petit coin réservé, pour cacher. Non, il n'a pas ça.
Devait être très mal vu par les grands prêtres, les sadducéens. Et...
Non, et d'abord, il est à Rome. Donc, il est dans la communauté. Les seuls gens qu'il rencontre, c'est les juifs de la communauté romaine. Les juifs de la communauté romaine, bon, ils sont moins orthodoxes que ceux de Jérusalem. Et deuxièmement, il est le prince. On pardonne aux princes. On leur a toujours pardonné. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quel régime.
Oui, mais ce qui est intéressant, puissant. C'est qu'on a besoin de lui pardonner. C'est, en fait, ce que je crois que ce qu'on veut, avec Frédéric, on essaie de comprendre, c'est est-ce que son comportement est considéré comme avant-garde, scandaleux, normal? Vous voyez ce que je veux dire?
On peut lui pardonner
par les juifs, bien sûr. Par les juifs.
Il y a deux
par sa mère, je ne sais pas.
Écoutez,
enfin, par. Voilà,
vous savez, le premier siècle est marqué religieusement par deux grandes figures. Moi, je parle des juifs. Par deux grandes figures, que vous connaissez Frédéric, que sont Hillel et Shammai. Hillel représente ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme libéral. Shammai, c'est le judaïsme orthodoxe. Donc Shammai, c'est la loi, toute la loi, rien que la loi, et l'abomination si tu n'étais pas dans la loi. Donc, il aurait été détesté par Shammai. Et Shammai devait le détester, puisqu'ils sont contemporains. En revanche, Hillel, vous connaissez sa formule qui est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? On lui demande un jour, et il dit, ne fais pas à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'il te fasse. Quoi de plus libéral, n'est-ce pas, que cela? Donc, disons, si vous voulez, que les juifs libéraux, ça existe déjà à l'époque, et ils adorent leur roi Agrippa, qui est sympathique, qui est une figure haute du judaïsme, et surtout, si vous voulez, qui représente pour les juifs, qui sont un petit peuple, et qui à Rome sont la plupart du temps des immigrés miséreux, à 90%, ils sont en train de mendier dans la rue. Il est le prince qui est l'ami des empereurs, des puissants, et quand il se passe un problème, c'est vers lui qu'on se tourne pour intervenir. Donc, il est aimé. Et en plus, il faut dire, si vous voulez, que, je l'ai dit, il a réussi, c'est absolument exceptionnel. Ce garçon avait un charme, et devait avoir un charme, un charisme exceptionnel, puisqu'il a été l'ami d'Auguste. Ensuite, il a été protégé par Tibère. Ensuite, il a été adoré par Caligula. Et ensuite, il a été fait roi complètement de Palestine, déjà un peu par Caligula, mais complètement par Claude, qui était son meilleur ami. Il était son meilleur ami. Agrippa était le meilleur ami de Claude. Donc il devait avoir un charisme absolu, parce que songez une seconde, il a eu une influence sous ses quatre empereurs. Songez aujourd'hui à ce qu'on dirait si un ministre avait été le ministre
du
général
Mitterrand,
de Gaulle, de Mitterrand, de Giscard... Et aujourd'hui, je ne sais quel quatrième président de la République française, on dirait que ce n'est pas possible. C'est impossible qu'un homme soit le confident, l'ami, et qu'il y ait un rôle, n'est-ce pas, de quatre aussi éminents personnages si différents. Et ben, je peux vous dire que les quatre empereurs étaient aussi différents que les hommes politiques français que je viens de citer. Donc il avait un charisme formidable. Donc il est joyeux, il est vivant, il se prend plaisir, il fait des dettes. Bon. Et puis, il se passe un événement considérable quand il a la trentaine. Tibère l'accuse d'avoir entraîné son fils dans la débauche, et Drusus, son fils qui était son meilleur ami, et Drusus meurt. Et donc Tibère l'exile. Il l'exile où? Dans le désert, dans le sud du désert, du Négev aujourd'hui, dans un trou perdu, dans une oasis minable, où il va vivre 12 ans. Donc il est passé, si vous voulez, des fastes, des orgies, de la folie romaine, à, si vous voulez, un petit trou de province dans le désert. Donc 12 ans de traversée de désert. Et là, évidemment, déjà,
ça va changer.
Il y a une réflexion, n'est-ce pas? Le seul livre qu'il a à sa disposition, c'est la Bible. Là, il n'y a pas d'autre livre. Bon. Et puis, comme vous l'avez dit, Frédéric, 2 ans plus tard, il y a la rencontre à Alexandrie avec Philon d'Alexandrie. Et là, je crois que c'est un moment capital de sa vie, parce que je crois que c'est un homme qui a donc connu le plaisir, qui a connu ensuite, si vous voulez, cet exil, cette solitude, cette pauvreté. Et là, il rencontre un homme qui lui explique, qui lui montre ce que c'est que le judaïsme. Qui lui montre, si vous voulez, qui lui explique que ce tout, ce monde grec et juif, en fait, sont proches l'un de l'autre. Philon, quand il parle de Platon, il dit le divin Platon. Hein, pour un juif, c'est quelque chose. Donc là, si vous voulez, je crois que Agrippa a rencontré son maître. Et qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus le même. La preuve. Et que la notion de roi berger, qui est une notion très très importante dans l'œuvre de Philon d'Alexandrie, le roi est le berger du peuple, il est là pour sauver le peuple, il est là pour donner l'exemple, qui fait que il donne, alors que lui a joui de son, jusqu'à présent de son état de prince, c'est quand même très utile, hein, et ça va porter quand même pas mal d'agréments, il comprend, si vous voulez, que c'est pas ça, qu'il y a autre chose, qu'il y a un devoir,
une responsabilité.
Et quand il devient roi, et ça c'est absolument extraordinaire, c'est qu'il devient un grand roi, et que les quelques années de son règne, les 50 de son règne, c'est le seul moment où la Palestine, où je vous rappelle que vivaient non seulement des Juifs, mais aussi des Grecs et des Arabes, c'est le seul moment où ce pays connaît l'harmonie, se développe. C'est le seul moment où les Juifs sont descendus dans tout l'Empire contre les attaques qui sont menées contre eux. Donc c'est le seul moment de bonheur, on peut dire, pour roi des Juifs, car il est roi des Juifs de Palestine, et aussi considéré comme le roi des Juifs par tous les Juifs de la diaspora, qui étaient évidemment beaucoup plus nombreux que les Juifs de Palestine.
C'est entre quelle époque et quelle époque qu'il va régner
Il va régner entre 40 et 44.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui de Jean-Claude Lattès, qui nous parle du dernier roi des Juifs, son ouvrage publié chez Nil. Donc on poursuit cette conversation, Lélie Anvar.
Oui, je voulais, en fait vous venez de parler de quelque chose qui est un sujet d'ailleurs dans la littérature depuis toujours, et je vois que justement dans la tradition juive, cette réflexion aussi a été très importante, à savoir qu'à un moment donné, quand on est jeune, on est prince, on profite de tout, et puis à un moment donné, quand on est investi du pouvoir, on est obligé de faire des choix, en particulier le choix d'incarner l'État, d'incarner cette fonction, et par conséquent, la plupart du temps, donc, de renoncer au plaisir, éventuellement à l'amour, et en tout cas à son intérêt personnel. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, quand j'ai lu que ce dernier roi des Juifs était le père de la fameuse Bérénice, vous en avez parlé en tout début d'émission, évidemment je n'ai pas pu m'empêcher d'aller reprendre la Bérénice de Racine, qui est un texte véritablement magnifique, et qui met donc en jeu l'amour difficile entre Bérénice et Titus, après que Titus ait accédé précisément au pouvoir. Jusque-là, c'était un prince, il vivait avec Bérénice, donc princesse juive, fille d'Agrippa, et quand il devient empereur, Rome exige que Bérénice s'en aille, puisque le mauvais souvenir de Cléopâtre, mais aussi globalement un certain racisme, il faut le dire, de la part des Romains, xénophobie, voilà, c'est plutôt ça. Une xénophobie de la part des Romains veut que l'empereur romain n'épouse pas, en femme légitime en tout cas, une étrangère, quelle qu'elle soit. C'est vrai que le fait qu'elle soit juive n'est pas plus important que cela, mais en tout cas, c'est une princesse d'Orient, quand même. Il y a quand même l'idée que c'est l'Orient, et que l'Orient, c'est un peu dangereux.
Perdition.
c'est la perdition, c'est effectivement la luxure, la sensualité, c'est tout ça. Et voilà. Et donc, voilà, j'ai juste choisi un passage dans lequel Bérénice fait ce reproche à Titus et la réponse que lui fait Titus. Donc, je vais lire à la fois, je vais faire à la fois Bérénice et Titus, parce que dans la réponse de Titus, on voit qu'il a opté, comme Agrippa, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire pour l'État. À un moment, quand on est investi de ce pouvoir, on doit renoncer à soi-même et devenir le berger et faire ce que le peuple veut de vous que vous fassiez. Qu'avez-vous fait, hélas ? Je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois ? À quel excès d'amour m'avez-vous amenée ? Que ne me disiez-vous ? Princesse infortunée, où vas-tu t'engager ? Et quel est ton espoir ? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre, quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre ? Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore. Que ne me quittiez-vous ? 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Leur haine, dès longtemps contre moi déclarée, m'avait à mon malheur dès longtemps préparée. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin quand je n'ai plus qu'à redouter que vous. Titus lui répond. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir chercher ceux qui pouvaient un jour nous désunir. Je voulais qu'à mes vœux rien ne fût invincible. Je n'examinais rien, j'espérais l'impossible. Que sais-je ? J'espérais de mourir à vos yeux avant que d'en venir à ces cruels adieux. Les obstacles semblaient renouveler ma flamme. Tout l'Empire parlait. Mais la gloire, madame, ne s'était point encore fait entendre à mon cœur. Du ton dont elle parle au cœur d'un empereur. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sais bien que sans vous, je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner.
Oui, oui, c'est le dilemme intérieur du bonheur ou du pouvoir éternel. Je crois que mon roi est passé tranquillement d'un état à l'autre, sereinement d'un état à l'autre. Et d'ailleurs, quand il était roi, je veux dire, il ne se privait pas de tous les plaisirs. C'était pas un ascète, Agrippa. Il y a eu à Beyrouth, il a créé à Beyrouth des théâtres, des amphithéâtres. Il a donné des pièces, il a fait jouer des il adorait la musique. Il a fait jouer il y avait des musiciens qui venaient, il y avait des olympiades de musique, des musiciens qui venaient de tout l'Empire. Donc il est moins sévère que ça. C'est un personnage léger, Agrippa, n'est-ce pas ? En plein de gravité, mais il dit les choses graves avec légèreté.
Mais on sent que vous l'aimez beaucoup. En lisant votre livre, en vous écoutant, vous dites mon roi d'ailleurs, on sent que vous aimez l'homme.
Oui, je l'aime beaucoup parce qu'il est extraordinairement humain, plein de faiblesses et plein de grandeur. Donc je veux dire, c'est une image de l'homme qui est passionnante parce que une époque très compliquée, une époque difficile où son peuple traverse une crise absolument épouvantable. On sent très très bien que l'orage gronde et que la destruction approche. Il traite tout ça avec intelligence. Il voit, il est lucide, mais en même temps, il garde une humanité profonde. Et je crois, si vous voulez, que rien n'est mieux défini que ses derniers mots. Et quand il meurt, son dernier mot, c'est « Il n'y a pas eu sur Terre de prince plus heureux que moi. » Qui meurt en annonçant que sa vie a été un bonheur ? Peu d'hommes, n'est-ce pas ? Et donc, je pense que sa lucidité formidable, s'il avait régné plus longtemps, s'il n'avait pas été empoisonné, car
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce qu'il est mort ?
Il est mort empoisonné par un légat de Syrie qui s'appelait Marsus, qui était là et qui le jalousait, qui le craignait parce qu'il sentait tout ce que ce roi amenait d'indépendance douce à son pays, mais qu'il préparait son pays à l'indépendance. Et que donc, si son pays avait suivi, si ensuite ses descendants, si ensuite ce qui s'était passé, avait été suivi par les Juifs, certainement ça n'aurait pas été la catastrophe que nous avons connue, que son peuple a connue. Donc, un homme qui est à la fois humain, intelligent, charismatique et sage. Bon,
ça ne s'est pas tellement dans l'histoire.
Il est mort à quel âge ?
Il est mort à 54 ans. Il est mort à 54 ans et je vous dis tout de suite, ça a été la catastrophe. Tout de suite après.
Oui, parce que qui lui a succédé ?
Ah ben, si vous voulez, son fils était trop jeune. Il a un fils qui s'appelle Agrippa, qui est à Rome, qui est élevé par Claude, qu'il aime beaucoup et tout. Mais il est très jeune, il a 17 ans et il n'a pas la maturité ni l'intelligence de son père. Donc Claude suit ce que lui disent ses conseillers, disant c'est un peuple difficile à gouverner, très difficile à gouverner. On ne peut pas mettre ce jeune roi sans expérience, ce jeune prince sans expérience, et on envoie un procurateur romain. On envoie donc, si vous voulez, des procurateurs romains. C'est-à-dire, on reprend le système que les Romains avaient. On redonne des successeurs à Ponce Pilate. Et là, ça va être la catastrophe, parce que ces procurateurs romains, à l'exception des deux premiers, sont des brutes, comprennent rien au monde juif, sont venus là pour s'enrichir. S'enrichir, on disait, vous savez, on disait de la Syrie toujours, le procurateur, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Fadus, est arrivé pauvre dans la riche Syrie, il a quitté riche une Syrie devenue pauvre. Donc, je veux dire, les procurateurs, ils s'enrichissaient, donc évidemment, ils scandalisaient le peuple, plus les forces militaires stationnées, les légions étaient composées comme toutes les forces qui stationnent dans un pays étranger, de gens qui sont peut-être un peu des brutes, et qui n'avaient rien à faire, des coutumes étranges pour eux, incompréhensibles, des Juifs.
Oui, d'ailleurs, je me souviens, je crois que c'est dans la guerre des Juifs que Flavius Joseph accable effectivement un des derniers procurateurs en disant c'est à cause de lui qu'il a tellement provoqué les Juifs en ne comprenant rien à leur coutumes, etc., que ça a créé ce soulèvement progressif à partir de 66 jusqu'à 70.
Absolument.
Je signale d'ailleurs en passant, pour ceux qui veulent lire Flavius Joseph, donc ses deux ouvrages principaux, c'est les Antiquités juives et la guerre des Juifs. Je crois qu'il a écrit d'abord la guerre des Juifs.
Oui.
Et ensuite les Antiquités juives. Absolument, où il raconte l'histoire du peuple juif jusqu'à des origines, jusqu'à
de la création,
de la guerre.
Il a repris la Bible.
Il a résumé.
Et il a revu. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans son texte, c'est de voir comment on lisait la Bible, comment on comprenait la Bible au 1er siècle. Donc ça, c'est très très intéressant. En y ajoutant un peu de tradition orale, ce qui fait qu'on comprend aussi un certain nombre de visions de la Bible. Et puis surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'histoire biblique s'arrête, il continue. Et donc on sait ce qui s'est passé de la chute de Jérusalem, la première, de la conquête par Nabucodonosor, jusqu'à la chute du Temple en 68, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, il y a ça.
Alors, je signale en passant que dans les Antiquités juives, il y a un bref passage qui est sur Jésus, mais
oui,
qui est assez contesté par les spécialistes en disant ça peut être... Parce que il semble que dans ce passage, il y a des choses qui peuvent être authentiques de Flavius Joseph lorsqu'il dit qu'il y a eu un certain Jésus mort sous Ponce Pilate. Et puis, il y a une phrase un petit peu élogieuse. On se dit, c'est peut-être des copistes chrétiens qui ont... Parce que finalement, on n'a pas les textes manuscrits, évidemment, de Flavius Joseph. On a des copies par les chrétiens. Et ce sont donc des moines chrétiens qui ont réécrit. Est-ce qu'ils n'auraient pas rajouté quelques passages ?
Vous pouvez vous poser la question de tout ce que nous lisons de l'Antiquité. N'est-ce pas ? Rappelez-vous de Umberto Eco. Oui, ce passage-là est contesté. Et, je dirais, si vous voulez, quand même qu'il y a quand même un moment historique qu'a vécu Flavius Joseph, qu'il a certainement connu, c'est Néron.
Qui a massacré les chrétiens.
Le massacre des chrétiens. Donc ça, autant, je pense, si vous voulez, qu'il ne parle jamais de Jésus durant sa vie, mais personne ne parle de Jésus en dehors l'évangile de Jésus, il n'y a aucun témoignage sur Jésus, parce que bon, il est entouré d'un petit nombre d'hommes, simplement. Il a 12 disciples, donc ce n'est pas énorme. Mais en revanche, là, à Rome, sous Néron, là, il commence à y avoir des milliers de chrétiens. Donc Flavius Josèphe ne peut pas les ignorer. Tacite les connaît, donc Tacite les cite, Tacite en parle. Donc comment, si vous voulez, un historien juif installé à Rome n'en parlerait pas, alors que ce sont des gens très proches de lui, n'est-ce pas? Je veux dire, les chrétiens sont encore des juifs à l'époque. Il n'y a pas encore Saint-Paul.
Absolument,
hein.
Absolument, il n'y a pas de rupture. C'est une querelle entre juifs.
Non, l'hégémonie. La grandeur de saint Paul se passe après le temple, se passe après la destruction du temple. Donc, oui, peut-être, je ne sais pas. Si vous ne pouvez pas y répondre, Frédéric, comment voulez-vous que moi j'y réponde?
Non, mais c'est vous qui êtes interviewé. Lélie Envar.
Oui, alors, Frédéric parlait du fait que vous aimiez ce dernier roi dont vous avez fait la biographie. On sent aussi chez vous qu'il y a une... peut-être presque une nostalgie de ce qu'il représente, c'est-à-dire comme s'il était le dernier représentant d'un monde qui après lui s'éteint. Et c'est un monde dans lequel, justement, vous en avez parlé, il y a toute cette influence grecque, romaine, juive, tout cela, finalement, il l'a intégré dans sa personne, il l'a incarné, un monde qui peut-être, après la destruction du temple précisément, sera plus voué à l'éclatement qu'il n'a été de son temps. Et il y a comme une nostalgie qui pointe chez vous.
Oui,
de cela.
Oui, non, je veux dire, je trouve, si vous voulez, que cette époque est dans tous les domaines est absolument exceptionnelle, et que nous avons à la fois des gens de foi remarquables, que nous avons des intelligences absolument exceptionnelles, et que nous avons des arts de vivre qui communiquent, qui sont exceptionnels. Bon, mais ce que je disais au départ, donc, il m'intéresse parce que il est, si je puis dire, la synthèse. Il représente cela.
C'est un homme synthèse, c'est vrai.
Il représente cela, il le vit parfaitement et il montre quelle harmonie dont on peut tirer. Mais je répète, ce qui me semble surtout exceptionnel, qui m'intéresse et qui me passionne, c'est que nous sommes tous des Agrippa. C'est que nous continuons à penser comme lui, à croire comme lui et à vivre comme il vivait. Donc voilà, je veux dire. C'est ça qui me passionne vraiment.
Alors,
chez lui.
Pour ceux qui veulent continuer donc, de mieux connaître encore ce monde passionnant et la vie du dernier roi des Juifs, je renvoie donc à votre ouvrage, Le dernier roi des Juifs, aux éditions Nil. Merci beaucoup, Jean-Claude Lattès.
Merci. Oui.